on 92.6 FM, on Radio Player and online at radioverulam.com. This is Community Radio for West Harts. It's the third Thursday of the month at 9 o'clock, and that's time for Bouche à Oreille, Radio Verulam's programme for Francophones and Francophiles. The next hour will be exclusively in French, so brush up your language skills and get ready for a taste of France with Aline Bavister and Geraldine Zielinski.
Welcome to Bouche à Oreille.
Bonsoir et bienvenue à Bouche à Oreille avec vous de 21h à 22h tous les 3e jeudis du mois. Ouvrez vos oreilles.
Alors ce soir, c'est encore Mélanie qui prend la place de Géraldine.
Eh oui, car Géraldine a donné le jour à un magnifique petit garçon au doux nom de Marius. Bravo Géraldine, toutes nos félicitations. On espère bien qu'elle nous écoute ce soir et berce son petit au doux son de Bouche à Oreille.
Bah dis tout de suite qu'on est soporifique.
Mais non, pas du tout. Bon, de quoi parle-t-on ce soir?
Eh bien écoute, nous traitons d'un thème qui sera cher à nombre de nos auditeurs français de ce côté de la Manche, puisque nous allons parler des impatriés. Ces Français de l'étranger qui sont revenus au pays après des années hors de la mère patrie. Leur atterrissage ne se fait pas toujours en douceur et pour mieux comprendre le sujet, nous aurons au téléphone Yasmine et Elodie, nouvellement rentrées en France après des années à Saint-Alban.
Oui, et puis nous retrouverons toutes nos rubriques habituelles, panorama des actualités françaises du mois, nouvelles culturelles de notre région ainsi que dans l'Hexagone, et expression française avec Martin Clavier. Et puis notre tranche de vie, nous recevrons Marie Beaupère-Périsson de Saint-Alban. Alors, ouvrez grand vos oreilles jusqu'à 22h. Bon, comme d'habitude, on commence avec les actualités, Aline.
Oui, tout à fait. Alors, pour la France, l'année 2013 s'annonce belliqueuse, au propre comme au figuré, et tant dans l'Hexagone qu'à l'étranger. Au propre tout d'abord, car la France est en guerre au Mali depuis 2 semaines maintenant, pour tenter d'enrayer l'avancée des islamistes fondamentalistes qui ont déjà conquis le nord du pays. Cette intervention militaire, nommée Serval, a été appuyée par l'ONU et approuvée par le Conseil de sécurité. Elle a été débattue au Sénat et à l'Assemblée nationale la semaine dernière, mais un vote sur la question était exclu car, fait plutôt inédit, l'ensemble de la classe politique lui accordait son soutien, même s'il est vrai qu'il a été nuancé de part et d'autre. Pour Jean-François Copé, par exemple, il s'agit de s'assurer que la France ne soit plus isolée dans cette opération. Le soutien des autres pays commence d'ailleurs à pointer le bout de son nez, car en plus des 2500 soldats français attendus à terme, le Royaume-Uni, le Danemark, la Belgique, l'Allemagne et le Canada ont fourni des avions. Les USA offrent de leur côté un soutien de renseignement et de ravitaillement et ont commencé à assurer le transport aérien des troupes françaises et de leurs équipements vers le Mali. Mais pour l'instant, aucun autre pays occidental ne s'est engagé à envoyer des troupes au sol.
Donc on est les seuls, quoi.
Voilà, pour l'instant on est les seuls, autant le dire. Alors d'autres, tels le député UMP Lionel Lucas, déplorent le manque de transparence sur la totalité des motifs de l'opération. En effet, le nord du Mali et ses voisins sont riches en uranium et Areva, la société publique française leader mondial du nucléaire, a de nombreux intérêts dans cette région. Il ne serait donc pas surprenant que ces intérêts motivent eux aussi l'intervention française.
Tiens donc, tu crois ?
Voilà. Alors bref, cette guerre promet de continuer d'occuper une place importante dans les médias, d'autant plus que chaque jour apporte de nouveaux rebondissements. L'armée malienne appuyée des troupes françaises a reconquis lundi la ville de Diabali au centre du pays. Et mercredi, l'aviation française a frappé un centre islamiste à Tombouctou. 20 blindés français préparent désormais deux fronts à l'ouest et au centre du pays, avant une reconquête éventuelle du nord lorsque les forces africaines de la MISMA seront déployées. Tout ceci s'est déroulé sur fond de prise d'otages dont vous avez sûrement entendu parler, dans une usine gazière en Algérie, qui a été présentée comme une représailles des intégristes face à l'offensive malienne. Cette prise d'otages s'est soldée par la mort de 37 employés étrangers et 29 islamistes, et 5 employés de l'usine sont toujours portés disparus.
Ouais, un vrai drame, quoi.
Ouais, tout à fait. Toujours sur le même thème, donc je m'excuse, et quasiment au même moment où la France s'engageait au Mali, une opération pour secourir un agent de la DGSE, retenu comme otage en Somalie depuis 2009, a connu une issue tragique. En effet, au cours de l'assaut, deux soldats français ainsi que l'agent en question ont été tués. Voilà, ça c'est pour ce qui se passe hors de nos frontières. Maintenant, passons à la bataille sans armes, heureusement, qui fait rage dans l'Hexagone. Je veux parler bien sûr de la polémique sur le projet de loi sur le mariage pour tous qui va être débattu à l'Assemblée le 29 janvier. Une manifestation contre ce projet, intitulée « Manif pour tous », a eu lieu dimanche 13 janvier et a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes, entre 400 000 et 800 000 selon les points de vue.
Oui, les participants et puis la police, quoi.
Voilà, tout à fait. On peut deviner qui a dit quoi. Alors, c'est le plus grand rassemblement sur un sujet de société depuis celui sur l'école libre en 1984, dont on ne se souvient pas parce qu'évidemment, nous n'étions pas nés.
Évidemment.
Voilà. Alors, une partie de l'opposition était sur le terrain, entre autres de nombreuses personnalités de l'UMP et du Front National. On trouvait également beaucoup de familles et certains manifestants qui revendiquaient leur homosexualité, mais qui étaient aussi contre le projet. L'Église n'avait pas appelé à manifester, mais l'archevêque de Paris était là pour soutenir les manifestants. Quant aux intégristes du groupe Civita, ils étaient persona non grata et ont manifesté séparément. Sur les pancartes, les slogans se rapportaient surtout à la question de l'enfant. Car au-delà du mariage lui-même, ce qui inquiète les opposants au projet, c'est la possibilité que la filiation naturelle d'un enfant soit occultée lors de son adoption par un couple de même sexe ou de sa naissance par procréation assistée au sein d'un couple du même sexe. Alors après le succès de cette manifestation, beaucoup réclament désormais un référendum, mais l'Élysée reste ferme sur ce point. Le débat sera à l'Assemblée et non dans les urnes. Cela dit, le gouvernement a maintenant accepté de recevoir prochainement à l'Élysée des représentants des anti-projets de loi.
On n'a pas fini d'en parler, quoi.
Tout à fait. Alors là, je vous ai parlé des anti-projets de loi. Mm-hmm. Ceux qui soutiennent le projet, eux, appellent à une grande manifestation le 27 janvier, donc ce week-end. On ne sait pas si le maire de Paris s'en réjouit, car la manifestation du 13 a fait d'après lui 100 000 euros de dégâts sur la pelouse du Champ de Mars.
Oui, aïe, aïe.
C'est le gazon maudit, n'est-ce
pas ? Et puis, depuis la neige, elle l'a recouvert, donc voilà. On voit plus rien.
Voilà. Alors, tout le battage médiatique sur le Mali et les mariages pour tous nous ferait presque oublier ce qui est quand même la préoccupation principale des Français, à savoir l'emploi et le piètre état de notre économie. Les cyniques, comme moi, se demanderont même si c'est pas un peu fait exprès, quand même.
Oh, dis donc, Aline.
Ouais, ouais. Parce que la crise est bien là. Renault vient d'annoncer 7500 suppressions d'emplois d'ici 2016, soit 15% des effectifs. Pas de licenciement en principe, mais moins de postes remplacés et des départs anticipés.
Crise? Tu as dit crise?
Voilà, j'ai dit crise. Mmh. Et alors, janvier voit aussi la fin d'une emblème du shopping, le Virgin Megastore, qui va fermer ses portes définitivement.
Non.
Bon, je finis quand même avec une bonne nouvelle, hein, parce que ça serait
bien,
dommage,
ouais,
de pas en avoir une. La Française Florence Cassé, qui était incarcérée au Mexique depuis 7 ans et qui avait d'ailleurs toujours clamé son innocence, vient d'être libérée, elle vient d'arriver en France. Voilà.
Voilà. Bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. Mmh. Alors, à part ça, je sais que tu aimes les nouvelles des people.
Moi?
Oui. Alors, sache que c'est maintenant officiel, la France en compte 2 de moins.
Tiens donc.
Oui. Alors, on avait parlé le mois dernier de l'exil possible de Gérard Depardieu en Belgique.
Mm-hmm.
Il a finalement choisi la Russie et notre Brigitte Bardot nationale a décidé de l'y rejoindre. Va falloir qu'il s'emporte une petite laine.
Oui, et puis surtout pas de manteau de fourrure hein, pour bébé quand
même.
Ah
bah non, hein. non, absolument pas.
Bon, et qu'est-ce qui t'a laissé bouche bée ce mois-ci ?
Eh bien, écoute, c'est une histoire drôle et il faut bien le dire tragique à la fois, racontée par le quotidien régional Ouest France. 5 femmes asiatiques qui voulaient se rendre à Lourdes se sont retrouvées dimanche dimanche, donc pas dimanche dernier, le dimanche d'avant, vu qu'on a une semaine de retard dans notre émission à cause de nos problèmes techniques.
C'est vrai.
Voilà. Elles se sont retrouvées dans un petit village du Finistère, abritant une chapelle qui s'appelait Notre-Dame de Lourdes, mais qui est quand même à rien que 800 kilomètres du lieu de pèlerinage.
Les pauvres.
Oui. Ça fait un peu loin.
C'est sûr.
Alors, elles ont eu le choc de leur vie, ces dames, quand la propriétaire du bar tabac où elles s'étaient arrêtées pour demander leur chemin a sorti la carte de la France et a indiqué la route à suivre pour les Pyrénées. Il y a de quoi poursuivre le fabricant de GPS, à mon avis.
Ça, c'est clair. Mais enfin, on espère qu'elles sont arrivées à bon port.
Bah, écoute, l'histoire ne le dit pas. Hein. On l'espère pour elle, effectivement.
Oui, c'est sûr.
Voilà, donc c'était tout pour ma rubrique. Et puis maintenant, c'est à toi, Mélanie, et la rubrique culturelle.
Oui, merci Aline. Donc côté culture, nous allons commencer avec le cinéma, où les Français n'ont malheureusement pas réitéré les poids de The Artist aux Golden Globes.
Oh,
car
dommage,
seul
ça.
Amour, évoqué ici le mois dernier, le film Amour, il a été récompensé, en tant que meilleur film étranger. Il sera d'ailleurs le seul représentant aux Oscars, mais dans plusieurs catégories.
D'accord.
Et avant même les résultats, il a battu deux records. Tu sais lesquels ?
Non, j'aimerais quand même le savoir.
Voilà, donc la nomination d'une actrice française 2 années de suite, c'était jamais arrivé auparavant.
Wow, pas mal.
Et ensuite, cette dernière est la doyenne des nominés puisqu'elle a 85 printemps.
Oh, voilà. C'est beau ça, c'est beau.
Donc côté sortie, dans le coin, on a donc Les Misérables, la nouvelle version qui est réalisée par Tom Hooper, qui sera projetée du 25 janvier au 3 février au Ciné Lumière à Londres.
Oui. D'accord.
Et avec le 26 janvier, une projection suivie d'une discussion intitulée Les Misérables, From Page to Stage to Screen, en présence de William Nicholson, le scénariste du film, Hadley Fraser, acteur à la fois dans la comédie musicale du West End et dans le film, et enfin Bradley Stevens, de l'université de Bristol, auteur et spécialiste anglais de Victor Hugo et de des adaptations de son œuvre. Tous les renseignements au www.institut-français.org.uk.
Bon, bah ça a l'air sympa.
Ensuite, j'ai le 30 janvier à 20h à la Harpenden Film Society, donc pas très loin de chez nous, qui présente le film Le Havre, un film de Aki Kaurismäki, pardon pour la prononciation.
Bien prononcé, on voit que tu t'es entraîné.
Avec Jean-Pierre Darroussin. Et le pitch, c'est Marcel Max, qui est cireur de chaussures au Havre. Et le jour où un jeune garçon africain arrive clandestinement en cargo, Max décide de le protéger et de le cacher.
Ah bon ?
Donc voilà. Alors il y a un petit... L'entrée est à 5 livres, donc c'est très raisonnable. Et il y a également un prix spécial pour les étudiants de GCSE et de A-Level en français, qui est de 2 livres.
Ah bah c'est pas cher.
Exactement.
Ça.
Donc vous trouverez tous les renseignements sur leur site en un seul mot, harpendenfilmsociety.co.uk. Ensuite, à Welling Garden City, au Hawthorne Theatre, je vous en ai déjà parlé le mois dernier, il y aura un film qui s'appelle Tu seras mon fils, ou You will be my son, le mardi 5 février à 7h45. Ou 19h45 plutôt.
Oui, avec 7h45 du matin, ça fait,
voilà,
quand même
ça fait
un petit peu...
Donc avec une offre spéciale qui est que vous payez une place, et vous rentrez à deux. C'est un film de Gilles Legrand qui est sorti en août 2011 avec Nils Arestrup et Laurent Deutsch. Et voici ce qu'en dit Allociné. On ne choisit ni ses parents, ni ses enfants. Paul, propriétaire d'un prestigieux vignoble à Saint-Émilion, a un fils, Martin. Il rêve d'un fils plus talentueux, plus charismatique, plus conforme à ses fantasmes de père. L'arrivée de Philippe, le fils de son régisseur, va bouleverser la vie de la propriété. Paul tombe en fascination devant ce fils idéal, commence alors une partie d'échecs qui se jouera à 4, 2 pères, 2 fils, sous le regard impuissant des femmes qui les entourent.
Donc 2 pères, 2 fils, on reprend carrément le thème du mariage pour tous.
Oui, voilà, allez.
On va y recomposer, c'est beau ça.
Exactement. D'accord. Donc tous les renseignements, pareil, en un seul mot, hawthorntheatre.co.uk. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller au ciné, ici ou en France, car nous savons que dès qu'on est de retour en France et de retour au bercail, c'est souvent synonyme d'agenda de ministre, il y a donc les DVD, belle invention, et sorti récemment, on a pour les enfants les blockbusters, hein, qu'on appelle Madagascar 3, L'âge de glace 4, mais ceci en version française, qu'on sait ici un peu difficile à trouver hors des frontières de la métropole. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, on en a déjà parlé, Un monstre à Paris. Et pour les inconditionnels comme moi, de Kirikou, La sortie DVD du dernier opus est prévue le 6 février prochain.
Wow. Alors ça, moi, c'est la sorcière qui est quand même assez cool dans Kiriko.
Elle est superbe.
Je trouve que quand même,
c'est vrai.
Elle est assez classe.
Pour les adultes, parce que c'était pour les petits, oui, et les grands, et mais bon, après, oui, voilà, on peut faire pour les adultes. Il y a bien sûr les succès dont on a parlé, hein, Les Intouchables, il y a De Rouiller d'Os, aussi pour les avoir en version française, et The Artist, dont bien, je te l'accorde, hein, la version importe peu.
Oui, vu ce qu'ils se disent, effectivement.
Enfin, en DVD, j'ai trouvé quelque chose, comment dire, une perle, un truc qui n'existe nulle part ailleurs, Aline,
d'accord,
et qui va te transporter à l'époque des cols pelle à tarte et des costumes à paillettes.
Ah, c'est Clo-Clo, c'est Clo-Clo.
Désolée, non, désolée de te décevoir, mais on est un peu dans la même ambiance avec la réédition en coffret des Sacha Chaud, réalisé par Mariti et Gilbert Carpentier.
C'est quoi ce truc ?
Sacha Distel. Ah. Oh, la belle vie.
D'accord.
Voilà,
que...
des pommes,
ah,
des
poires,
et des scooby-dooby-doo. Ah, voilà.
Oui, ça me revient.
Ça y est, ça te revient,
ça
tu
me
vois.
Revient.
C'est
ouais.
Bon. Eh bien, il avait son propre show et où il invitait des artistes de l'époque pour chanter dans des tenues et des décors hyper kitschous.
Enfin,
un bon moment à passer. Mais redevenons sérieux. Pour les amoureux de théâtre et de la comédie française, un coffret de 25 DVD de grandes pièces classiques vient d'être édité.
Bah dis donc, 25 DVD, c'est vrai qu'il fait super froid, on peut carrément hiberner pendant 2 mois.
Exactement, voilà. Bien au chaud avec cette neige dehors, c'est très bien.
Fantastique.
Ça évite les chutes.
Tout à fait.
Côté expo, à la Royal Academy of Art, depuis le 9 janvier jusqu'au 14 avril, vous pourrez voir Manet, Portraying Life. C'est la plus grande rétrospective à ce jour au Royaume-Uni de son œuvre, avec des pièces issues de collections publiques et privées venant d'Europe, du USA et d'Asie. Tous les renseignements sur royalacademy.org.uk. Et en métropole, je voudrais vous parler d'une expo qui a lieu à l'Institut du Monde Arabe et qui est sur les Mille et Une Nuits jusqu'au 28 avril.
Oh, sympa.
Voilà, tous les renseignements sur imarab.org. Enfin, pour terminer, les Victoires de la Musique seront retransmises sur France 2 le 8 février prochain à 20h45, heure française.
Ah, oh, les Victoires de la Musique.
Exactement.
Alors, je suppose qu'on va nous ressortir tous les nouveaux venus dont tu nous avais parlé le
et
mois
voilà,
dernier.
Et voilà, exactement. On voit que Bouche à oreille est dans l'air du temps, puisqu'on va retrouver Benjamin Biolay nominé,
ouais,
M.
D'accord.
Et chez les filles, Céline Dion, Françoise Hardy et la grande Sophie, entre autres.
D'accord.
Mais là, pour toutes les infos également, c'est la magie d'Internet, lesvictoires.com.
Super.
Voilà, c'était le petit tour d'horizon non exhaustif, comme d'habitude.
Eh bien, merci Mélanie. On se retrouve juste après ça.
Radio Verulam Community Partners. Hearts and Middlesex Wildlife Trust are the leading voice for wildlife conservation in Hertfordshire and neighbouring areas. With 43 nature reserves spanning 1,900 acres, from beautiful woodlands and wetlands to rare patches of heath and orchard, we take practical action every day to help wildlife flourish. You can help us to protect your local wildlife today by becoming a member and join more than 22,000 others in Hertfordshire and Middlesex who say that wildlife matters to them. For more information about membership, go to www.heartswildlifetrust.org.uk or telephone 01727 858 901. That's St Albans 858 901.
For more on Radio Verulam Community Partners, go to radioverulam.com/communitypartners.
Community Radio in West Hearts. Radio Verulam.
Good evening. If you just tuned in, you are listening to Bouche à Oreille, Radio Verulam's monthly show for West Arts Francophone and Francophiles. We are here every third Thursday of the month from 9 p.m. to 10 p.m. for a show exclusively in French. Tonight we are talking about the impatriés, i.e. the French nationals who are coming back to the motherland after living abroad and what this experience is like for them.
Oui, vous écoutez Bouche à oreille, l'émission mensuelle de Radio Verulam, tout en français. Ce soir, nous parlons des impatriés, ces Français de l'étranger qui ont fini par rentrer au pays. Et dans un instant, nous aurons la chance de recueillir les témoignages de deux Françaises récemment rentrées du West Hearts. Mais avant de les écouter, c'est l'heure de notre rendez-vous mensuel avec Martin Clavier qui, on l'espère, est en ligne avec nous pour nous faire découvrir de nouvelles expressions françaises. Bonsoir Martin.
Bonsoir.
Alors,
ce soir, j'ai préparé quelque chose là à propos des impatriés. La première expression, évidemment, que j'ai trouvée, c'est ce qu'on disait autrefois quand quelqu'un vagabondait, on disait qu'il était sans feu ni lieu. Alors, le mot lieu, en fait, à l'époque, signifiait au sens strict famille. Et feu, ça désignait évidemment le foyer, la maison. Donc, les gens comme ça qui se promenaient, quand les gendarmes les interrogeaient, on pouvait savoir ni leur nom de famille, qu'ils ne connaissaient pas d'ailleurs, leur adresse, il n'y en avait pas. On était très très loin des cartes d'identité et des, des fichages des gens. Donc, on allait où on voulait. On était sans feu ni lieu. Alors, sinon, vient d'autres expressions qui tournent autour du même thème. J'ai évidemment l'expression « nul n'est prophète en son pays ».
Ah oui, très connu.
Qui remonte au 17e, mais le sens, on le connaît. Il est plus difficile d'être connu chez soi qu'à l'étranger.
Mm-hmm.
Alors, il y a certains qui attribuent ça à l'évangile où Jésus de Nazareth, qui était le fils du charpentier, pouvait pas être celui qui prétendait, quoi.
Oui, d'accord.
Alors, l'expression, d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on la retrouve dans d'autres pays. Au Brésil, c'est pas nul n'est prophète en son pays, c'est le saint de la maison ne fait pas de miracle.
D'accord.
Alors, sinon, autre chose, j'ai trouvé l'expression citoyen du monde.
Oui.
Alors, en fait, citoyen du monde, c'est, on trouve ça chez Socrate qui dit « Je ne suis ni d'Athènes ni de Corinthe, je suis citoyen du monde ». Et puis l'expression, après, sera reprise par Erasme au XVIe siècle. On la retrouve, Gandhi la reprend à son compte, Charlie Chaplin, Anatole France.
Oui, elle a été très utilisée, oui.
Oui, ça a été très utilisé, mais l'origine est quand même très, très ancienne.
D'accord.
Et puis, ça concerne bien les impatriés. J'ai trouvé un proverbe russe qui dit « En pays d'exil, même le printemps manque de charme ».
Ah, c'est joli.
Oui, c'est... Alors, il y avait, à propos toujours de quitter son pays, c'était Félix Leclerc. J'ai trouvé une citation où il en parle. Il dit « On quitte son pays pour les mêmes raisons qu'on quitte la maison de son père ».
Tiens donc.
Ça demande réflexion.
Oui, hein. Complètement, oui, oui. C'est très intéressant.
Et puis sinon, quelques... j'ai trouvé autour de l'idée de nation deux expressions qui sont intéressantes. Il y a le concert des nations. Et le concert des nations, c'est une expression qui recouvre l'ensemble des pays du monde qui respectent les règles reconnues par tous.
Mm-hmm.
Et puis, une autre expression amusante, c'est la sagesse des nations. Et la sagesse des nations, c'est en fait l'ensemble des proverbes et des remarques de bon sens.
D'accord.
Et souvent, c'est même un petit peu ironique. Hein, et puis sinon, j'ai encore trouvé aussi, toujours dans le même domaine, l'expression la mère patrie, hein, la mère, le pays où l'on est né.
Oui.
Et on s'aperçoit même que d'ailleurs, quand il y avait des pays colonisateurs, les colonisés disaient la mère patrie pour parler du pays qui les avait colonisés. C'était assez amusant. Et puis sinon, pour terminer, j'ai trouvé c'est Raymond Devos, l'humoriste français, donc qui dit « Mon voisin déteste tellement les étrangers que quand il va dans leur pays, il ne peut pas supporter.
» Ah, elle est bonne,
c'est
parfait, oui, oui. Mais écoutez,
voilà tout ce que j'ai trouvé.
C'est très gentil. Merci.
De ce changement de pays.
C'est très gentil. Merci beaucoup, Martin.
Merci,
et puis,
Martin.
On vous retrouve le mois prochain.
Le mois prochain.
Très bien. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonne soirée.
Merci également.
Au revoir.
Si vous désirez nous suggérer donc des expressions pour cette rubrique ou si vous voulez en savoir plus sur certaines expressions qui vous intriguent, envoyez-nous un courriel à bouche à oreille en un seul mot @radioverulam.com ou mettez un message sur notre page Facebook ou notre blog bouche-à-oreille.radioverulam.com. On se retrouve juste après une petite pause.
The Solid Gold Music Show is here on Radio Verulam 92.6 FM every Saturday morning at 9 a.m. Join Derek Sains and Stephen Hall for the music and news as they flash you back to decades past between 9 and 10. Yesterday Today updates the news on your favourite stars of yesterday. Or how about one of your children's favourites in Kids Corner just after 11 o'clock? Take part in competitions where we give away CDs, DVDs and vouchers which can be spent in your local stores. Make sure you don't miss out on Stephen's now legendary gripe just before the midday news. The Solid Gold Music Show is sponsored by Dockguard of Luton and we'll be back on Radio Verulam this Saturday between 9 a.m. and 1 p.m.
Friendly Radio. We're Radio Verulam in West Harts.
Welcome back to Bouche à Oreille, Radio Verulam's monthly show for West Harts francophones and francophiles. We are on air every third Thursday of the month until 10 p.m. and it is exclusively in French. Rebonsoir, vous êtes bien sur Bouche à Oreille. C'est le magazine mensuel de Radio Verulam tout en français. Et ce soir, nous allons parler des impatriés, c'est-à-dire ces Français de l'étranger qui sont rentrés au bercail. Alors, c'est un sujet d'actualité, n'est-ce pas?
Oui, récemment, nous avons pu remarquer que la question des Français ayant pris la décision de quitter la mère patrie occupait l'espace médiatique, notamment à travers les aventures de deux de ces symboles dont on a parlé précédemment, Bébé et Gégé. Hein, ne ferait-il plus bon vivre en France entre trop d'impôts pour les uns ou le manque de perspectives professionnelles pour les autres? Question. Même les dirigeants étrangers, comme ici David Cameron et Boris Johnson, font les yeux doux à nos ressortissants. Un article a même prétendu que Londres était la sixième ville française. Bon, cet argument n'a pas tenu la distance car la fiabilité des outils statistiques utilisés a été très vite remise en cause. Tout le monde connaît donc le mot « expat » ou « expatrié » qui, contrairement à une idée répandue, ne désigne pas que les Français envoyés par une entreprise ou une administration, mais aussi tous ceux qui tentent une aventure individuelle à l'étranger. C'est ainsi que, il faut savoir que chaque année, il y a un nombre important d'impat, donc ce terme qui est un néologisme dérivé du mot précédent, et qui correspond à tous ceux qui reviennent donc, sont en nombre assez important. Il y a même un article qui est paru dans M, le magazine du Monde, le 30 novembre dernier, qui évoque le sort de ces impats qui retrouvent leur pays d'origine, auquel ils doivent se réhabituer. En effet, on s'est aperçu que certains souffraient d'un syndrome appelé choc culturel inversé.
C'est bon ça.
Voilà, c'est un terme employé par certains spécialistes de la mobilité internationale pour désigner les difficultés rencontrées une fois rentrés. On dit qu'ils ont le blues, ce qui est, du reste, souvent mal vécu et interprété par leur entourage, qui les considère comme des privilégiés.
Ouais, c'est vrai que c'est l'image de l'expatrié avec la vie dorée.
Exactement.
Bien dire ça.
Donc, en fait, on peut dire qu'ils ont la langue, mais plus les codes. Et leurs difficultés sont souvent liées à la rigidité administrative et aux institutions scolaires. Même notre ministre des Français à l'étranger a rencontré des difficultés pour obtenir de l'administration française la carte grise de sa voiture ramenée d'Irlande.
Ouais, bah ça ne m'étonne pas du tout.
Voilà, donc autant il est facile de se sentir étranger à l'étranger.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ça va, on peut le confirmer. Autant il est difficile de se sentir étranger chez soi. Néanmoins, il souligne ses impacts aussi les aspects positifs du retour, comme la gastronomie, la diversité des régions et le rapport à la culture, entre autres. Des études montrent que plus l'expatriation est longue, plus l'atterrissage est difficile. On parle en moyenne du cap des 5 ans en dehors du pays.
Ben moi, je suis mal partie. Ça fait plus de 20 ans que je suis en Angleterre, je pense que... Il n'y a plus de retour possible.
Voilà, mais en moyenne, on estime la réadaptation qui a un an, à une année.
D'accord.
Voilà, tout ceci n'est que moyenne.
Oui.
Voilà. Par contre, si on connaît le nombre d'émigrés français à l'étranger, qui serait environ de 2,5 millions, dont 300 000 au Royaume-Uni, il n'y a pas d'outils statistiques fiables pour connaître le nombre exact d'impacts. Et pour illustrer ce sujet, nous allons accueillir ce soir deux toutes récentes impates qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation à partager leur expérience de retour.
Super. Bah, pour nous mettre dans l'ambiance, hein, on va écouter une petite musique bien de chez nous. Ah, le beau Charles Trenet, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. On est de retour sur Bouche à Oreille et on espère avoir Yasmine en ligne. Bonsoir Yasmine.
Yala, bonsoir à tous.
Alors parle le plus fort possible.
Ah, d'accord.
Bonsoir Yasmine.
Bonsoir.
Est-ce que tu peux tout d'abord nous parler un peu de toi et de ton parcours, s'il te plaît?
Oui, d'abord bonjour à tous les auditeurs qui ont déjà eu l'occasion de m'entendre une fois, puisque c'est mon deuxième passage dans cette émission, donc voilà, je commence à être un peu rodée. Donc je suis Yasmine. J'ai pas mal bougé dans ma vie et moi j'aime ça. Donc voilà, mon père était diplomate, donc on a beaucoup voyagé avec son métier. Moi, j'ai toujours été un petit peu la dernière arrivée, la nouvelle dans les écoles, puisqu'on voyageait très souvent début septembre. Donc, on arrivait en retard dans les années pour débuter l'année scolaire. C'était pas toujours facile parce que les groupes de copains étaient déjà constitués.
Oui, on imagine.
Voilà, donc une fois adulte, je me suis un petit peu posée après avoir étudié aussi bien à Paris qu'en Angleterre, où j'ai fait des études de droit. Et j'ai également commencé à travailler en Angleterre, donc j'avais déjà une première expérience d'expatriée, je suppose. Je suis revenue ensuite en France, où j'ai passé une dizaine d'années. Je me suis mariée, mes quatre enfants sont nés en France.
Oui, t'as été bien occupée.
Oui, voilà. Voilà, j'avais peu de temps pour penser aux questions d'impact expat. Donc je suis ravie d'en avoir l'occasion ce soir. Et nous sommes retournés en Angleterre, cette fois-ci avec mon mari qui avait été muté. Et nous avons passé 4 années à Saint-Alban, et donc avec les enfants qui sont tous allés donc à l'école anglaise. Et on est revenu récemment.
D'accord.
Voilà.
Et quelles étaient les conditions de ce retour? Quelles ont été, pardon, les conditions de ce retour?
On est rentré parce que mon mari était venu à Londres pour une durée de toute façon limitée au départ. Donc on savait que c'était pour un temps, une période qui serait probablement de 3 ou 4 ans. Mon mari est rentré avant moi, il est rentré en différé puisque lui il est parti en janvier, il a quitté Londres pour Paris en janvier 2011. Mais moi je suis restée en fait en Angleterre avec les 4 enfants parce que je ne voulais pas changer de pays et je ne voulais surtout pas non plus changer d'école en cours d'année.
D'accord.
Donc, de manière précipitée, je pensais que c'était préférable de rester. Et donc, moi-même et les 4 enfants, nous sommes rentrés à la fin de l'été dernier, fin juillet.
D'accord. Et quels étaient pour toi les points négatifs et les points positifs?
Alors, les points positifs, c'était donc une super expérience pour les enfants qui ont fait un passage, évidemment, dans le système anglais. Ils étaient scolarisés dans les écoles locales. Donc, ils sont tous devenus bilingues anglais. Ils ont une expérience, moi aussi d'ailleurs, hein, je parle des enfants, mais je dois m'inclure dans le groupe.
Une grande enfant, Yasmine,
voilà,
une grande enfant.
Toujours, je suis toujours une grande enfant. Je trouve que j'ai rencontré des tas de gens qui proviennent de tous les horizons. Je trouve en tous les cas, c'est très particulier certainement Saint-Alban, mais moi j'ai trouvé... des amis aussi bien australiens, néo-zélandais, indiens. Donc je trouve que ça donne un état d'esprit quand même bien plus ouvert. En France, en tous les cas à l'école où vont les enfants, l'école française locale, il y a, je dirais, 99,9% de Français.
Oui, oui, oui.
Donc il n'y a pas ce brassage culturel qu'on peut avoir, je pense, plus en Angleterre.
D'autant qu'il me semble que tu es plutôt à l'extérieur d'une grande ville, c'est ça?
Oui, on est dans les environs de Paris, effectivement. Donc même s'il y a beaucoup d'étrangers, ils ne vont pas forcément à l'école française locale.
D'accord.
Donc, je crois que dans la classe des enfants, je crois qu'il n'y a que des Français, en fait.
D'accord.
Voilà.
Et le point négatif, alors?
Alors, le point négatif, oui, voilà, c'est que quand on est parti, on avait des groupes d'amis qui étaient bien constitués. Quand on revient, c'est à peine si on les reconnaît, et peut-être vice-versa, je ne sais pas. Mais la chose un peu curieuse, c'est que voilà, on est parti, donc c'est ressenti comme un départ pour les gens qui sont restés. Mm-hmm. Et c'est un petit peu ce que disait Aline tout à l'heure, donc ils ont peut-être cette image d'expat avec une vie dorée.
Oui.
Et donc quand on revient, on n'a pas forcément de points d'intérêt convergents.
Oui,
donc,
tout à fait.
C'est un petit peu, même des gens avec lesquels on était relativement proches, on trouve au retour que les liens se sont quand même très distendus.
D'accord, il y a tout, en fait un lien social à reconstruire.
C'est ça, exactement, exactement. D'accord. Et d'ailleurs, on ne le reconstruit pas forcément avec les mêmes personnes.
D'accord, et quel conseil tu donnerais donc aux futures personnes qui seraient dans ton cas ?
Alors moi, je conseille de se préparer le plus possible, notamment si on a des enfants, de se renseigner sur les écoles. Mmh. Si on a, bon, nous, on a eu un petit peu, c'était un petit peu différent dans le sens où on avait déjà une maison, on savait quel serait notre point de chute.
Oui.
Évidemment, quand on ne sait pas où est son point de chute, ça rend les choses bien compliquées parce que, notamment pour les écoles, il faut avoir une adresse, etc.
Tout à fait.
Mais il faut se renseigner et très souvent, c'est en prenant des contacts locaux qu'on en sait le plus. Donc malheureusement, il faut passer pas mal de temps au téléphone parce que les informations, entre guillemets, officielles,
sont pas forcément.
Non. Et moi, ça, j'ai pu aider une maman qui revenait des États-Unis et pour laquelle j'ai fait la liste de toutes les écoles maternelles, primaires, dans les environs.
D'accord. Donc, il faut retrouver, en fait, il faut essayer de retrouver un ancien impact dans l'endroit où tu veux aller.
Exactement.
Et là, tu es sûr de...
Exactement.
Bah, c'est très, très gentil, en tout cas, Yasmine.
Voilà. Donc, et moi aussi, donc, je tiens à faire mienne la ce que disait Martin en début d'émission. Donc moi, je suis une citoyenne du monde.
Ah ben voilà. Belle conclusion
c'est très
en tout cas.
Voilà. J'ai bouclé la boucle.
Ben écoute, voilà. On te remercie vraiment beaucoup pour ton témoignage.
C'est moi.
Et puis on va tout de suite donc retrouver notre deuxième invitée, Élodie, juste après une petite pause. Au revoir Yasmine.
Merci beaucoup Yasmine. Au revoir.
Radio Verulam Community Partners.
People living with cancer or life-threatening illness can often feel isolated, confused, and alone. Grove House in Waverley Road, St Albans, leads the way in offering free specialist care and support to patients and their families affected by cancer and life-threatening illness in St Albans, Harpenden, and Decorum. To find out more about their services, or how you can become a volunteer, or make a regular donation, or leave a gift in your will, phone 01727 731 000 or visit grove-house.org.uk.
For more on Radio Verulam Community Partners, go to radioverulam.com/community partners.
Friendly Radio. We're Radio Verulam in West Harts.
Rebonsoir, vous êtes sur Bouche à oreille et nous allons maintenant pouvoir parler à notre deuxième invité, notre deuxième impatrié, c'est-à-dire Élodie. Bonsoir Élodie.
Bonsoir Aline.
Comment ça va ?
Ça va bien dans le froid français, mais ça va.
Oui, enfin le froid français, il faut bien dire aussi qu'il fait bien froid en Angleterre aussi. Hein. Je te rassure.
On m'avait annoncé que j'allais au sud en quittant l'Angleterre.
Ah ouais, 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 mais en fait, c'est un sud théorique, on va dire. C'est
voilà,
un sud théorique. Alors, merci beaucoup de nous rejoindre ce soir. Est-ce que, comme Yasmine, tu peux un peu nous parler de toi et de ton parcours ?
Ben moi, j'ai été expat depuis ma naissance. J'ai jamais eu le statut, celui dont Mélanie parlait. Avec tout paquet d'études, j'en rêve. J'aimerais vraiment l'avoir un jour. Donc, mon papa est officier, donc j'avais 6 semaines la première fois que j'ai quitté la France.
Ah oui, donc tu t'en souviens pas trop ?
Les photos après, c'est tout, hein, c'était les Caraïbes et tout. Donc, j'ai fait le Caraïbe, le Pacifique, c'est pas mal la France, mais avec toujours les 2-3 ans. J'ai été une jeune adulte à Paris, puis un très long séjour en Angleterre et aux Émirats Arabes Unis. Donc, j'ai toujours bougé, puis j'ai rencontré mon mari. Et très rapidement, ben, on est parti en Hollande, où on a vécu 3 ans et demi. On a fait un court passage à Bruxelles d'un an, et puis ben, Saint-Allemand pendant plus de 6 ans et demi. Donc ça au total plus de 10 ans et demi à avoir quitté la France.
D'accord.
Le cap des 5 ans dont tu parlais, je l'ai bien bien passé.
Ouais.
Donc je suis une bonne impatriée, je rentre dans la fiche technique. de celle qui a du mal de revenir.
Ouais.
Aime bouger. Moi, j'ai vraiment besoin de bouger. Je trouve que c'est une richesse de pouvoir voyager et de vivre plusieurs vies dans une seule vie.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que... Parle-nous un peu des conditions de ton retour, en fait. Pourquoi es-tu revenu? Enfin, on dit revenu, mais comme on l'a compris, en fait, tu n'as jamais passé beaucoup de temps en France, mais pourquoi es-tu en France maintenant?
Mais la nationalité, donc, c'est un peu mon pays.
Ouais.
Non, Franck, donc mon mari est directeur associé d'un cabinet de conseil. Et malgré la crise, son cabinet lui grossit beaucoup et rapidement sur la France. Donc, le retour s'est imposé. Donc, si tu veux, janvier dernier, ça a été, pour fêter la nouvelle année, ça a été on fait quoi ? On reste et je fais un peu comme Yasmine a fait pendant un an, je ne vois pas mon mari de la semaine du tout, où on prend tout le monde sous le bras, j'ai trois enfants et on rentre en France. Donc, moi, j'ai eu un peu ce dont parlait Yasmine à la fin, où est-ce qu'on s'installe par rapport au travail, par rapport aux écoles, et tout ça par téléphone. Donc, ça n'a pas été facile.
J'imagine.
Parce que tu téléphones, tu es encore un peu naïve, tu as ce côté, tu as des gens qui disent « Oh, elle est française, donc elle connaît. » Je suis française, mais je ne connais pas.
Ouais.
Je suis maintenant incollable sur la géographie de la banlieue parisienne.
Ah, c'est bien, tu connais le périphérique.
Complet. Incollable maintenant. Et sur les écoles, savoir que tu dis, je rentre en France, j'ai des enfants qui sont bilingues, j'ai trouvé une école rapidement, non, c'est comme l'Angleterre pour certaines écoles, concours d'entrée, attente, etc., etc.
D'accord. Et on imagine la paperasserie. Hein. Et alors, quels sont les points négatifs et les points positifs ? Est-ce que ce qu'a dit Yasmine t'interpelle quelque part ?
Moi, je serais plus sur les points négatifs du retour.
D'accord.
Les points négatifs, c'est comme tout départ. Quitter Saint-Alban, c'était dire au revoir aux amis.
Ouais.
Saint-Alban est quand même, vous êtes gâtés. Faut vous le dire, vous êtes gâtés.
Ouais,
c'est
vrai.
C'est une ville géniale. Moi, j'ai en plus ma sœur qui vient d'Angleterre avec sa petite famille.
D'accord.
C'était pas retour vers ma famille, oui, vers mes parents, mais quitter une partie de ma famille aussi en quittant l'Angleterre. Donc, il y avait tous ces points négatifs. Et même si j'ai la chance d'être dans une près de Paris, où on trouve quand même des baked beans.
Alors ça des Français qui aiment les baked beans, c'est quand même assez hallucinant, je dois dire.
Attends, et du Marmite chez Carrefour, le problème, c'est qu'on n'a pas de Jamie Dodger.
On saura quoi envoyer dans les paquets, alors, les petits paquets de bouche à oreille. Voilà.
Quand on vient me visiter, apporter des Jamie Dodger.
D'accord. Et alors, les points positifs, parce qu'on aimerait quand même conclure sur une note sympa.
Oui, ce serait bien.
Alors, les points positifs, c'est déjà de dire qu'on rend que les années passées à l'étranger ont donné un bagage culturel aux enfants énorme.
Ouais.
Ils ont vraiment un bilinguisme, qui rentrent dans des écoles bilingues et ils sont bons dans les deux matières. On va se flatter, tu vois, je tape mon dos très contente. Et puis le gros point positif de la France, et ça c'est ce qui manquait en Angleterre, c'est SOS Médecins. Quand la première semaine, tu arrives, tu débarques et qu'à minuit, ton enfant est malade, t'appelles les docteurs et n'importe quoi. Ça, c'est pour moi le plus gros point positif du retour en France.
C'est vrai que SOS Médecins, c'est quand même pratique. Hein. On a beau dire, c'est quand même pratique. D'accord. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage.
Merci, Elodie.
Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, toi comme Yasmine, dès le départ, vous étiez des Français un peu particuliers, c'est-à-dire que vous étiez quand même des globetrotteuses à la base, on va dire. Mais en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation d'installation, on va dire, parce que ça fait quand même pas mal de temps que vous y êtes. Et puis surtout, continuez à écouter Bouche à Oreille, absolument, et parlez-en autour de vous, qui sait, on aura peut-être maintenant beaucoup d'auditeurs en France,
sur la région parisienne.
Donc merci beaucoup, Elodie.
De tous les Albanais ici.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
A new French language show is coming to Radio Verulam for West Hearts francophones and francophiles. Tune in to Bouche à Oreille the third Thursday of every month at 9 p.m. Find out about the latest news and culture from France, as well as francophone events closer to home in West Hearts. All of this in French, so brush up your language skills and tune in to 92.6 FM or listen to us online at www.radioverulam.com. Contact us with suggestions and ideas now at bouche-à-oreille@radioverulam.com.
Bouche à oreille, l'émission en français, tous les troisièmes jeudis du mois à 21h sur Radio Verulam.
Rebonsoir, nous sommes sur Bouche à Oreille et après avoir entendu les témoignages de nos deux impatriés, Yasmine et Elodie, on va maintenant passer à notre rubrique lecture avec Pierre. Bonsoir Pierre. Ah, on est contente de vous avoir,
ah hein,
parce
oui,
qu'on a tellement de mal avant. Alors, ce soir, vous allez nous parler d'un livre qui vous a beaucoup plu et dont vous avez eu la chance d'avoir un contact avec l'auteur. Et on est très, très contents sur Bouche à Oreille parce que cet auteur, on va le recevoir la semaine prochaine.
Le mois prochain.
Ouais, le mois prochain.
Le mois prochain, oui. Donc, Pierre Stas, voilà. Si je ne m'abuse.
Alors, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous donniez, mais vraiment brièvement, un petit aperçu du bouquin.
Alors, voilà, le bouquin s'appelle « La nuit pacifique ». Et alors, c'est une histoire absolument, on va dire, extraordinaire. Il s'agit en fait d'un, je dirais, presque un faussaire professionnel, puisque c'est un monsieur qui est un retoucheur photo.
D'accord.
Et on peut imaginer que son job, c'est toujours trafiquer le réel.
D'accord.
Il va se rendre, par hasard, en Thaïlande. Et là, il va être confronté à un certain nombre de choses que lui-même ne va pas accepter. Il y a en Thaïlande, il y a toujours l'image d'Épinal, si je puis dire, la Thaïlande, soleil, sourire, machin, etc. Or, lui, il se trouve confronté à la violence, à des choses qui ne sont pas très jolies, à la fourberie, etc., etc.
D'accord.
Et donc, il va se dire très vite, il faut absolument que... Bon, je fais mon job, mais bon, on va quand même s'arranger pour essayer peut-être de changer les choses.
Oui, une prise de conscience.
Une vraie prise de conscience. Et il va lui arriver plein d'aventures. Il va rencontrer évidemment des hommes politiques et il va être confronté vraiment à des situations difficiles que je ne veux pas dévoiler. Évidemment.
Un réel engagement.
Un réel engagement.
D'accord.
Et alors, ça va être... la quête de vérité de ce personnage,
mm-hmm.
Qui s'appelle donc Henri Verneuil. Enfin, pas Henri Verneuil, il s'appelle Verneuil, hein, Monsieur Verneuil. Et ensuite, il va se demander, il va partir à la recherche d'une question qui s'est toujours posée à lui et qui remonte à son enfance.
D'accord.
Et,
mais que vous ne pouvez pas dévoiler parce que
faut laisser un suspense.
Dévoiler. Et qu'on ne peut pas dévoiler.
D'accord.
Et il se trouve que la réponse à sa question va vraiment le désarçonner.
D'accord.
Donc il y a un peu de suspense alors.
Oui. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un livre qui peut s'apparenter à un petit thriller quand même.
Oui.
Il y a pas mal de rebondissements. Et pour d'autres, ce serait plutôt un bon petit roman sympathique, quoi.
D'accord.
Mais je crois que il faut le voir aussi sous l'angle du roman policier.
D'accord.
Alors, est-ce que je peux vous dire un petit mot très brièvement, de qui est Pierre Stas?
Ah oui, tout à fait.
Hein? Alors, il a 26 ans.
Ah, donc il est très jeune, c'est un très jeune auteur.
Il a 26 ans, il est avocat, et il a son troisième livre.
Ah, mais donc.
Troisième livre, il a édité, donc, tous sont sortis chez Flammarion. Hein. Alors, il y a les restes de Jean-Jacques, ça c'était il y a à peu près 4 ans. L'année dernière, c'était Hôtel Argentina.
Mm-hmm.
Et puis bon, cette fois-ci, c'est La Nuit Pacifique qui se passe à Bangkok.
Et toujours sur le même thème, un peu thriller, policier?
Oui, mais enfin bon, c'est quand même un jeune homme qui se pose pas mal de questions.
D'accord.
Hein. Et
une forme d'introspection aussi.
Oui. Mais il va défendre, il va tenter quand même de défendre les différents points de vue, ses personnages, voilà.
D'accord.
Parce qu'il y a également un médecin qui va dans le cadre dans ce livre, quoi. Il y a un personnage symbolique qui est quand même le médecin.
D'accord.
Il va rencontrer un médecin qui lui-même a une... qu'on pourrait appeler une part d'ombre, et qui, en fait, va tenter de révéler au truqueur professionnel qu'est le monsieur Verneuil, va lui dire, donc, à ce truqueur professionnel, attention, tu es dans le déni, Et pourtant, voilà, toi, la falsification, c'est ton gagne-pain. Mais, fais gaffe.
Attention à la vraie vie, quoi.
Attention à la vraie vie.
Bon, ça nous donne vraiment envie, en tout
ça
cas.
Ça donne l'eau à la bouche. Il est disponible sur Amazon, dans toutes les librairies.
Oui. Et alors, je peux vous dire qu'il concourt pour le prix des libraires.
Ah, super. Super. Bon, on aura l'occasion d'en parler avec lui le mois prochain, un peu plus précisément.
Ouais.
Voilà, pour ceux qui sont férus de psychanalyse, de philosophie et aussi qui ont des notions de grec, etc.
Ah, là, je suis mal partie.
J'ai estimé que la nuit pacifique, c'était un peu Orphée revisité.
D'accord.
C'est-à-dire que, Orphée, vous le savez très certainement, étymologiquement, c'est l'enfoui.
Bon, oui, on se Orphée aux enfers, quand même.
Donc, en fait, dans ce livre, chacun des personnages va descendre dans ses propres enfers pour tenter de se retrouver, se reconstruire.
Ouais, voilà, c'est ce que je mettais moi sous le thème
d'introspection. Introspection infernale. Écoute, on va se quitter là-dessus.
Merci beaucoup, en tout cas.
Et puis, on a hâte d'avoir l'entretien avec ce jeune auteur
le mois prochain. Voilà, le mois prochain.
Merci beaucoup, Pierre. Au revoir.
Radio Verulam Community
Partners. St. Albans District Neighbourhood Watch is an organisation run by the community in the interests of reducing crime and hooliganism throughout the district. It works in close partnership with the local police and members of the council. It has been shown that crime is greatly reduced in recognised Neighbourhood Watch areas. If you wish to become a member, which costs you nothing, ring the Watch Liaison Officer on 01727 796 087.
For more on Radio Verulam Community Partners, go to radioverulam.com/community partners.
Good evening. If you've just tuned in, you are listening to Bouche à Oreille, Radio Verulam's monthly show for West Heart francophone and francophiles.
Oui, vous êtes sur Bouche à Oreille jusqu'à 22h. On n'a plus que 4 petites minutes. Et maintenant, c'est de l'ordre de notre rubrique Tranche de vie.
Oui, bonsoir Marie.
Bonsoir Marie. Allô? On ne l'entend pas.
Oh non, c'est pas vrai.
C'est pas possible. Tu essayes de la rappeler, Mélanie. Pendant ce temps-là, moi, ça va.
Je suis habituée à combler. Alors, ce que je voulais vous dire, tout d'abord, c'est que, en plus du témoignage de Yasmine et d'Élodie, on a le témoignage d'une troisième personne qui s'appelle Violaine. Un témoignage très, très intéressant et très touchant aussi. On n'aura pas le temps de vous le faire partager cette fois-ci. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur le blog. Donc, on le mettra sur le blog. Et comme ça, vous pourrez découvrir l'expérience de Violaine. Et on la remercie beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous. Alors, est-ce que Marie est là maintenant?
Oui, ça y est.
Ah, bonsoir Marie. Bonsoir. Alors, on est très, très heureuse de vous recevoir sur Bouche à Oreille. Et on a malheureusement... Deux minutes et demie. Ça va faire court.
Je vais donner mon prénom et mon âge et c'est bon.
Voilà, exactement. Alors, parlez-nous un peu de vous.
Alors, donc, Marie, 38 ans, pour faire court.
Oui.
J'ai 3 enfants et je suis pharmacien de profession et j'habite à Saint-Albans, au nord de Londres. Voilà.
Et depuis combien de temps es-tu en Angleterre?
Alors,
et qu'est-ce qui t'y a amené?
Bientôt 5 ans. J'y suis arrivée parce que mon mari, donc, qui est pharmacien également, a eu une opportunité pour travailler en Angleterre. Et donc, il est parti un an avant pour faire des repérages et je l'ai rejoint avec les enfants un an plus tard. Voilà.
Et la grande question, comment t'y sens-tu?
Alors, le fait de s'expatrier au départ, ça n'a pas été une évidence parce qu'il y avait malgré une certaine excitation. Il a quand même fallu mettre en balance les fameux points positifs et négatifs dont vous avez parlé avant. Mmh. Donc, les points positifs, le bilinguisme, le changement de vie, l'ouverture d'esprit dont on avait envie quand même depuis un certain temps. Et les points négatifs, l'éloignement familial, bon, qui n'est pas si loin que ça, mais bon, malgré tout, il y a la Manche entre nous. Mmh. Et la scolarité des enfants et la santé, comme le disait Élodie un petit peu plus tôt. Donc voilà, dans une certaine mesure, ça, c'était un petit peu plus... J'étais pas très sereine au départ, mais bon, l'intégration a été quasi immédiate, hein, par contre.
D'accord.
Donc, on s'est fait des amis très rapidement... que ce soit avec il y a une grande communauté française à Saint-Alban, par l'école, les voisins, donc on s'est senti très à l'aise et on l'est toujours d'ailleurs.
Ah bah ça c'est une bonne nouvelle.
Voilà.
Et est-ce que vous envisagez un retour? Est-ce que et si oui, est-ce que vous hésitez? Voilà. Alors, est-ce que vous êtes dans l'hésitation et en tout cas pourquoi?
Alors dans l'hésitation, il y a que moi qui suis dans l'hésitation.
Mm-hmm.
Voilà, donc essentiellement, je pense, parce que je ne travaille pas, que l'accès, effectivement, à la santé est moins évidente qu'en France. Et comme je suis un petit peu dans le milieu, okay. Bon, ben, ça m'angoisse un peu par moment.
D'accord.
Et voilà, bon,